I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Pendant près d'un mois et demi, jusqu'au vendredi 15 avril, la Cour d'assises spéciale a consacré ses débats à toute la période allant de la fin de l'été 2015 jusqu'au soir des attaques. Les enquêteurs et les 14 accusés présents à l'audience ont été interrogés sur l'organisation de ces attentats et le déroulé précis de cette soirée qui a fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Une séquence qui s'est terminée par un véritable coup de théâtre. Pour la première fois, le principal accusé, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste, a accepté de livrer en longueur sa version des faits. Avec nous dans Code Source, deux journalistes du service police-justice du Parisien qui se relaient pour couvrir cette audience historique, Pascal Aigret et Timothée Boutry. On a choisi de commencer cet épisode le mardi 15 mars. Salah Abdeslam est interrogé ce jour-là sur 5 voyages en voiture qu'il aurait effectués entre les mois d'août et octobre 2015. Il est accusé de s'être rendu en Allemagne et en Hongrie pour aller chercher plusieurs djihadistes, dont des membres du commando terroriste, et pour les ramener en Belgique. Pascal Aigret, décrivez-nous l'attitude de Salah Abdeslam ce jour-là pendant l'audience.
Moi, je le qualifie d'insolent, de provocateur, d'arrogant. Ça fait monter une sorte de tension dans la salle d'audience. On a l'impression que le président se laisse un petit peu dépasser, même. Il se prend plein de réflexions, du genre « Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite pause ?» lui demande Salah Abdeslam. Il va jusqu'à dire à une avocate de partie civile qui lui pose une question « Ça y est, est-ce que vous avez accouché ?» L'atmosphère va finir par vraiment dégénérer, finalement.
À deux reprises pendant l'audience, la salle répond de manière ironique aux provocations de Salah Abdeslam par des applaudissements.
La première fois, personne ne relève, ni la défense, ni le président, dont c'est le rôle. Et il y a même une deuxième salve d'applaudissements et des échanges vraiment aigre-doux entre le président et un avocat de la défense qui cherche à parler et dont le président n'ouvre pas le micro. Un enchaînement comme ça d'incidents qui crée une très très forte atmosphère de tension.
Et cette atmosphère très tendue a abouti à un incident surprenant en fin de journée.
Toute la défense décide de quitter la salle d'audience. On est à un moment du procès où on a vraiment le sentiment d'un manquement ce jour-là du président à son devoir de police de l'audience, plus globalement d'une fatigue générale en fait.
Le jeudi 17 mars, trois autres accusés, Oussama Krayem, Sofiane Ayari et Mohamed Bakali, refusent de répondre aux questions de la cour. Pascal Aigret, ce silence de certains accusés depuis des mois et le comportement de Salah Abdeslam finissent par beaucoup peser sur ce procès.
À ce moment-là du procès, pour les parties civiles, c'est un peu un coup dur, en fait. À quoi bon ? C'est ce que me dit le père d'une victime du Bataclan, qui se réveille le matin, il regarde la photo de sa fille et il revient quand même au procès, mais en se disant « mais bon, à quoi ça sert, en fait ?» Un autre qui tient une chronique quotidienne, ce jour-là, écrit une chronique très triste en disant qu'il se demande finalement si tout ce procès a un sens. Voilà, donc ça perturbe tout le monde et ça crée beaucoup de frustration.
Le mardi 22 mars, c'est au tour de Mohamed Abrini, 37 ans, le deuxième accusé le plus important de ce procès d'être interrogé. Timothée Boutry, son audition sur les préparatifs des attentats tombe le jour d'un triste anniversaire.
Oui, le 22 mars, c'est le jour des attentats de Bruxelles qui se sont déroulés le 22 mars 2016, qui ont été perpétrés par la même cellule en fait. Évidemment, c'est important parce qu'en plus, Mohamed Abrini avait un rôle dans ces attentats de Bruxelles. C'est le fameux homme au chapeau qu'on voit à l'aéroport de Zaventem en train de pousser une valise remplie d'explosifs. Alors il renoncera à faire sauter sa valise ce jour-là. Mais évidemment, l'audition de Mohamed Abrini ce jour-là est extrêmement symbolique.
Comment se passe son interrogatoire ce jour-là ?
D'emblée, il fait un aveu majeur, puisqu'il dit « j'étais prévu pour le 13 ». On se doutait bien qu'il avait un rôle majeur, et là, il dit « oui, j'étais prévu pour être membre du commando ». Donc c'est effectivement extrêmement important, parce que c'est la première fois qu'il le reconnaît, qu'il le dit aussi clairement.
Et il promet de donner des détails un peu plus tard, hein, c'est ça ?
Il fait un peu du teasing, puisqu'il dit « moi, je serai entendu précisément sur les événements du 13 novembre, et j'en dirai plus à ce moment-là ». Et même le président, à la fin, sourit et dit « on espère que vous serez dans ce même état d'esprit à ce moment-là ».
Mohamed Abrini donne aussi ce jour-là des informations sur le coordinateur présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud, mort, on le rappelle, pendant l'assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis, quelques jours après le 13 novembre.
Oui, au détour d'une question, il raconte que, alors il n'a pas la date exacte, fin août, début septembre, plus probablement début septembre, il a rencontré Abdelhamid Abaoud. Abdelhamid Abaoud, on sait qu'il est impliqué dans l'attentat du Thalys, et après il disparaît complètement des écrans radars jusqu'au 12 novembre, et lui dit comme ça, ah bah oui, moi je l'ai vu à Charleroi, et là, bah on sait que assez tôt finalement, sans doute début septembre, il est déjà en Belgique et en train évidemment de préparer les attaques qui vont se produire.
Les 23 et 24 mars, un enquêteur belge détaille par visioconférence le contenu de l'une des plus précieuses pièces à conviction de ce procès, un ordinateur retrouvé dans une poubelle à Schaerbeek dans la banlieue de Bruxelles le jour des attentats en Belgique. Les données de cet ordinateur ont été supprimées, mais les experts ont réussi à reconstituer l'arborescence de tous les dossiers dans le disque dur. Trois d'entre eux attirent à l'époque l'attention des enquêteurs. Un premier intitulé « Explosif », un deuxième intitulé « Cible ». Qu'est-ce qu'on retrouve dans le troisième, Pascal Aigret ?
Il y a ce troisième fichier qui s'intitule « 13 novembre ». Il y a un sous-fichier qui s'intitule « Groupe français », sans doute pour parler du Bataclan et retrouver une image du Bataclan. Et puis, il y a deux autres sous-fichiers là, qui sont beaucoup plus mystérieux. Il y a un qui s'appelle « Groupe métro ». Donc, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'attaque dans le métro, mais c'est une question du procès de savoir si quelque chose était prévu finalement dans le métro parisien. Puis, un cinquième sous-fichier qui s'appelle le « Groupe Schiphol », du nom de l'aéroport d'Amsterdam, qui suggère que quelque chose devait se passer dans cet aéroport. Et ce qui sera vérifié plus tard, c'est que deux des accusés se sont effectivement rendus le 13 novembre 2015 à Schiphol.
Et donc, cet ordinateur, il permet de savoir à quel moment la date et les cibles des attentats ont été décidées, c'est ça ?
Ce qui est certain, c'est que la création de ce fichier 13 novembre, ça date du 7 novembre. Donc à minima, le 7 novembre, la cellule terroriste a choisi la date du 13 novembre pour agir.
Le lundi 28 mars, un enquêteur vient à la barre raconter les ultimes préparatifs de ces attentats, quelques jours avant les attaques.
Ce qu'il explique, c'est que finalement, ils ont déterminé qu'il y a 14 téléphones qui ont été actionnés spécifiquement pour le 13 novembre et qu'il a été très difficile de travailler puisque finalement, ils n'en ont retrouvé que deux. Et c'est à partir de ça, de la téléphonie, qu'ils essaient de reconstituer en fait, les trajets pendant la journée, les trajets notamment des trois voitures. Il y en a une qui bouge, c'est la Clio. Et cette voiture, elle fait un parcours assez significatif puisqu'elle va d'abord dans le 11e vers la place de la République. Elle fait une sorte de boucle par le 17e arrondissement et ensuite, elle s'en va vers Roissy. Donc la question, c'est que sont-ils allés faire à Roissy ? Est-ce que c'était un repérage en vue d'une attaque aussi ce jour-là ? Est-ce que c'était un endroit où ils sont allés récupérer du matériel dans un parking, dans une voiture ? On ne saura jamais. Mais en tout cas, l'hypothèse de Roissy cible, comme Schiphol cible, reste dans le dossier.
Selon cet enquêteur, le Bataclan était probablement bien la cible principale du commando terroriste ce soir-là.
Oui, ça c'est l'exploitation de la téléphonie d'un des téléphones qui montre qu'il y a énormément de recherches dans ce téléphone sur le Bataclan. Les horaires de la salle de concert, le plan de la salle de concert, qui est le groupe qui joue ce soir-là. Et ce que pense cet enquêteur, c'est que finalement l'attaque du Bataclan c'est la cible principale, que toutes les autres ne servent qu'à faire diversion pour attirer et désorganiser les services de secours et les services de police.
Il
Le mardi 29 mars, Mohamed Abrini est interrogé comme les autres accusés, cette fois-ci sur son rôle dans les quelques jours qui précèdent les attentats. Et la cour attend bien sûr qu'il développe ses aveux de la semaine précédente. Timothée Boutry, comment se passe le début de cette audition ?
Il confirme que oui, il va bien détailler ce qu'il avait laissé entendre la dernière fois, à savoir qu'il devait bien faire partie des commandos du 13 novembre. Et il sort cette théorie que c'est suite à son renoncement que la cellule aurait fait appel à Salah Abdeslam. Voilà, donc c'est l'idée d'un terroriste par substitution. Ça suscite beaucoup de questions, on lui demande de détailler. Et là, dès qu'on rentre dans les détails, Mohamed Abrini, il est beaucoup plus filandreux. Mais disons que la thématique générale, c'est « je devais en faire partie, j'ai renoncé et on a pris Salah Abdeslam à ma place ».
Et donc selon lui, à quel moment est-ce qu'il se désiste ?
Il fait partie de ce que lui-même appelle le convoi de la mort, c'est-à-dire c'est le voyage des trois voitures qui ont à leur bord les futurs membres du commando qui partent de Belgique pour rejoindre la région parisienne. Une fois arrivé le soir en région parisienne, c'est là qu'il va dire que non, il se désiste et qu'il va repartir en fait. Voilà. C'est comme ça que lui décrit la manière dont ça s'est passé.
Comment réagit l'accusation à l'écoute de cette version ?
L'accusation est sceptique. On s'étonne qu'il ait pu se désister de manière si tardive. L'avocat général dit pour une opération aussi importante, on ne va pas se contenter de quelqu'un qui hésite. En plus, on lui soumet l'existence d'un testament qu'il avait écrit, comme le font souvent les terroristes de l'État islamique. Il dit oui, mais enfin, j'ai écrit ça comme ça, c'était pas sérieux. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire votre version, on la croit pas. Pas vraiment, et on pense que vous l'alliez jusqu'au bout, jusque beaucoup plus tard que ce que vous êtes en train de nous raconter.
Cette version livrée par Mohamed Abrini, elle est plutôt favorable à Salah Abdeslam.
Par nature, lui, il dit non, mais Salah Abdeslam, il devait être en Syrie à ce moment-là, donc il n'était pas prévu. Mais finalement, il a dû obéir à son grand frère. Mais moi, il ajoute, j'étais sûr qu'il ferait rien. Évidemment qu'il a renoncé à déclencher sa ceinture. C'est pas parce qu'elle a dysfonctionné qu'il s'est rien passé. Il dit, moi, le soir du 12 novembre, j'ai vu tous les membres de la cellule, j'ai vu qui était déterminé et qui ne l'était pas, et Salah Abdeslam ne l'était pas.
Le lendemain, Salah Abdeslam est interrogé à son tour sur les quelques jours qui précèdent les attentats. Il peut donc répondre à la version livrée par son ami d'enfance, Mohamed Abrini. Mais au début de l'audience, Pascal Aigret, il choisit de se taire.
Il se lève, tout le monde s'attend à ce qu'il saisisse la perche quelque part que lui a tendue Mohamed Abrini. Et non, il dit « Ah ben aujourd'hui, finalement, j'ai décidé de faire usage de mon droit au silence. » Et là, c'est vraiment un énorme soupir, de stupéfaction, de dépit qui jaillit de toutes les salles d'audience qui sont destinées au procès. Un énorme sentiment de déception. Et ce dépit se lit sur le visage du président qui fronce les sourcils et qui dit « Ah ben alors ça, ce n'était pas du tout prévu ».
Timothée Boutry, maître Claire Josserand-Schmidt, s'avance devant le box pour poser des questions, malgré tout, à Salah Abdeslam. D'abord, rappelez-nous qui est cette avocate.
Alors, c'est une avocate qui défend notamment l'Association française des victimes du terrorisme, l'AFVT. Donc, elle a une grande connaissance de cette matière-là. Depuis le départ, elle a noué une espèce de relation avec Salah Abdeslam. Elle a réussi à créer un dialogue plutôt qu'une relation. Voilà. On sent qu'il y a une espèce de respect mutuel qui s'est instauré entre eux. Et donc là, quand cette avocate se lève, on se dit peut-être qu'elle va réussir à le faire parler.
Racontez-nous son échange avec Salah Abdeslam.
Alors Claire Josserand-Schmidt lui dit « Vous savez, la dernière fois, vous avez posé une question sur votre adhésion à l'État islamique et vous m'aviez dit « Oui, c'est une bonne question, mais je vous répondrai plus tard, vous me l'aviez promis. Voilà. Est-ce que vous entendez tenir votre promesse, en fait ?» Et là, pas vraiment de réaction, mais on sent qu'il est plus attentif, Salah Abdeslam. Donc elle dit, vous savez, les parties civiles sont prêtes à entendre beaucoup de choses. Elles ont besoin de comprendre. Est-ce que ça, vous comprenez ? On voit qu'il hoche la tête. Donc déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu, parce que jusque-là, il regardait plutôt ailleurs. Donc elle dit, vous savez, moi j'ai beaucoup de questions, donc elle va égrener une série de questions sur notamment le dernier repas avec sa compagne pendant laquelle il pleure, ce repas du 10 novembre, où il dit non mais si je pleure, c'est pas parce que je sais que je vais mourir, c'est parce que je sais que je vais partir en Syrie, donc il est toujours sur cette hypothèse-là. Mais disons que voilà, le dialogue s'instaure vraiment, finalement la parole passe à d'autres avocats, et puis là Maître Josserand-Schmidt se dit que peut-être il faut qu'elle repose d'autres questions puisqu'elle sent qu'il y a quelque chose à tirer. Le président fait l'amour, on sent clairement qu'il est jaloux. Hein. Il aurait bien aimé que ce soit lui qui fasse accoucher Salah Abdeslam et c'est pas le cas. Et donc finalement elle repose une série de questions sur cette soirée.
Et elle arrive à lui faire dire des choses.
Oui, des choses importantes, notamment pour la première fois, il reconnaît que son grand frère Brahim l'invite à aller rencontrer Abdelhamid Abaoud le 12 novembre et que c'est à ce moment-là que le coordinateur des attentats va le convaincre. Il dit « c'est là que tout va changer pour moi ». Et ensuite, il dit de manière très clair là, alors il avait déjà laissé entendre qu'il a renoncé à actionner sa ceinture. Claire Josserand-Schmidt lui dit « vous avez renoncé ». Et il répond « c'est ça ». Pas par lâcheté, pas par peur, c'est parce que je voulais pas, c'est tout. Et il dit après, j'ai menti à mes camarades, c'est parce que j'avais honte de pas avoir été jusqu'au bout. J'avais peur du regard des autres, mais vraiment, il est très clair. Il dit, j'ai renoncé à faire actionner ma ceinture explosive ce soir-là.
On fait un saut dans le temps, le mercredi 13 avril. Salah Abdeslam doit être interrogé pour la dernière fois sur les événements qui l'ont conduit à cette soirée du 13 novembre 2015. Son ami d'enfance, Mohamed Abrini, est interrogé juste avant lui. Il confirme une nouvelle fois qu'il a demandé à un taxi parisien de le ramener en Belgique dans la nuit du 12 au 13 novembre. Il dit qu'il a découvert avec étonnement que les attentats étaient en cours le soir du 13 novembre, alors qu'il était dans un café pour regarder le match France-Allemagne, puis il explique qu'après cela, il a rejoint une planque de la cellule terroriste en Belgique. Pascal Aigré, l'interrogatoire de Mohamed Abrini se termine, reprise de l'audience vers 18h15.
Le président demande à Salah Abdeslam de se positionner devant le micro. Et alors bizarrement, le micro est plié en deux vers le box. Donc on voit Salah Abdeslam se lever, triturer le micro. On entend, ah, il est fatigué, il parle du micro. Il a l'air plutôt détendu, calme. Il est presque souriant. Pour cet interrogatoire, on sent qu'il s'est presque apprêté. Il a les cheveux gominés en arrière. Sa barbe est bien taillée. Il est très chic. Il a un polo gris et blanc rayé. Et une sorte de marinière. En le voyant manipuler le micro, le président dit « Ah ben, c'est bon signe !» Et Salah Abdeslam dit « Oui, oui, aujourd'hui, je vais m'exprimer. J'ai choisi de parler. » Donc là, j'allais dire, c'est presque l'effet inverse de la fois d'avant. C'est-à-dire que tout le monde est surpris qu'il sorte de son silence. Et d'emblée aussi, il dit qu'il va s'exprimer, y compris sur les périodes qui intéressent la cour, c'est-à-dire sa nuit du 13 novembre.
Qu'est-ce qu'il dit d'abord sur son rôle dans la préparation des attentats? Comment c'est venu?
Il explique qu'il a fini par savoir que son frère Brahim, son frère aîné, n'était pas allé en Turquie mais en Syrie. Que Brahim lui a dit à peu près à l'été 2015 que lui, à ce moment-là, il a réfléchi, il avait très envie de partir en Syrie à son tour. Donc il demande à son frère de l'aider à trouver un passage. Et que finalement, son frère lui dit non, toi, il vaut mieux que tu restes parce que c'est compliqué en ce moment de passer, qu'il y a beaucoup de bombardements. Tu restes avec moi en Belgique et tu m'aides à travailler. Donc lui, il explique que finalement, quand il va chercher des membres du commando en Hongrie et en Allemagne, c'est pour aider son frère. C'est assez ambigu parce qu'il ne dit pas « je sais que c'est des futurs combattants qui vont perpétrer les attaques avec nous ». Que finalement, l'attaque en elle-même, il l'apprend que le 12 novembre et qu'Abaoud veut le convaincre de participer aux commandos qui vont attaquer Paris.
Il avait déjà évoqué au cours de l'instruction cette rencontre avec Abdelhamid Abaoud le 12 novembre, la veille donc des attentats. Mais cette fois-ci, il en livre les détails. Selon lui, c'est la première fois qu'il le revoyait depuis son départ en Syrie. Comment se passe la rencontre selon sa version ?
En fait, il est conduit par son frère Brahim dans une planque à Charleroi et Abdelhamid Abaoud lui explique donc qu'il va y avoir une attaque en France et lui dit « Toi, il faut que tu en fasses partie, tu porteras une ceinture explosive, tu iras à l'endroit qu'on te désignera et tu te feras exploser. » Il dit qu'il est choqué, qu'il dit à Abdelhamid Abaoud qu'il n'est pas prêt, que c'est pas... Il répète plusieurs fois « J'ai senti que j'étais pas vraiment prêt pour ça. » Abaoud lui aurait dit « Mais tu comprends, si tu vas en Syrie, de toute façon, tu risques de te faire attraper sur le trajet. De toute façon, tu termineras en prison. Donc, autant que tu viennes participer avec nous à une action kamikaze. »
Quelques heures plus tard, il part donc avec les autres membres du commando dans ce fameux convoi de la mort. Trois voitures qui partent des planques belges jusqu'aux appartements loués en région parisienne. Timothée Boutry, à l'audience, Salah Abdeslam livre sa version de la soirée du 13 novembre 2015.
Ce qui est le plus important, c'est qu'il développe cette idée selon laquelle on va lui assigner une mission qui est donc d'abord de déposer les membres du commando terroriste du Stade de France. Et ça, on sait qu'il va le faire parce que c'est totalement établi. Il conduit la voiture, il dépose les deux Irakiens et Bilal Hatfi qui vont se faire exploser aux abords du stade. Et qu'ensuite, la mission qui lui a été confiée, c'est de se faire sauter dans un bar du 18e arrondissement. Alors, c'est pas un élément totalement inédit puisque ça apparaît quelque part dans le dossier, mais jusque là ça n'avait pas du tout été étayé ni développé. Et là il dit non mais voilà, ma mission c'était ça. Donc là pour la première fois il décrit cette scène. Une fois qu'il a déposé le commando, il reprend sa voiture et il reroule vers Paris, il s'arrête un endroit qu'on ne connaît pas et il dit là je vais aller dans un bar du 18e arrondissement, je rentre, je commande une boisson, mais je vois qu'il y a des gens qui sont en train de rigoler et de danser et je vais pas le faire en fait, et donc je ressors très vite, je suis dans un état un peu hagard de sidération, je reprends ma voiture, je roule, elle tombe en panne, donc je me stationne tant bien que mal. Donc là c'est la place Albert Kahn dans le 18e arrondissement, donc c'est là où on va retrouver cette voiture. Et il dit je sors, j'erre un peu, je vais acheter un téléphone et je vais contacter mon ami Mohamed Amri pour lui demander de me ramener. C'est vraiment aujourd'hui sa version de la soirée du 13 novembre.
Il précise qu'il a renoncé à se faire sauter, je cite, « par humanité ». La suite de son parcours ce soir-là est connue. Deux personnes qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés, Mohamed Amri et Hamza Atou, font la route depuis la Belgique pour venir le chercher. Ils repartent immédiatement vers Bruxelles, le 14 novembre au petit matin. Timothée Boutry, Salah Abdeslam raconte à l'audience le moment où il retrouve les autres membres de la cellule terroriste dans une planque.
Il va dire qu'ils sont surpris de le voir arriver, notamment l'un des frères El Bakraoui, un des grands organisateurs des attentats depuis la Belgique, en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as pas déclenché? Pourquoi t'as pas pris un briquet si elle marchait pas ?» Voilà, donc ils sont quand même un peu sidérés, parce que pour eux, Salah Abdeslam est mort, et voilà, ils le voient arriver, et ils perçoivent évidemment aussi que ça va être un vrai problème de sécurité, puisque Salah Abdeslam va très vite devenir l'homme le plus recherché d'Europe, mais il va continuer à être pris en charge par la cellule, et il va aller de planque en planque jusqu'à son arrestation en mars 2016.
Après plusieurs heures d'interrogatoire, l'audience est suspendue vers 21h. Timothée Boutry, vous qui suivez ce procès depuis le début, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
On se dit qu'on a vécu un moment d'audience. La version de Salah Abdeslam sur ce qui s'est passé le 13 novembre, en fait, on l'attend depuis le départ, on ne l'a jamais eu. Dès la sortie, les parties civiles manifestent leur scepticisme. On y adhère, on n'y adhère pas, mais en tout cas, on a eu la version de Salah Abdeslam.
L'interrogatoire de Salah Abdeslam se poursuit le lendemain, et cette fois-ci, il répond notamment aux questions de l'un des avocats généraux qui représente l'accusation dans ce procès.
Oui, en fait, ça va être son contre-interrogatoire, si je puis dire, puisque là, il a juste répondu aux questions de la cour. Donc, d'emblée, Nicolas Braconnet dit « En fait, c'est assez facile de choisir le moment où l'on parle parce que ça permet de s'adapter au débat. » En fait, sous-entendu, vous prenez la parole en dernier, vous savez tout ce qui s'est dit, donc vous allez ajuster ce récit par rapport à ces éléments-là. C'est un peu ce qu'il lui dit. Il lui dit notamment « Vous dites que vous vous engagez que le 12 novembre, mais sauf que dès le 10, vous créditez votre compte en banque et vous participez à la location des voitures. » Évidemment, vous l'avait fait avant, donc vous vous êtes pas engagé de manière si tardive. Mais même à la fin, l'avocat général lui dit, vous savez, on a des éléments, on a des billes, que vous ayez renoncé ou non, finalement, c'est important pour vous, mais pour nous, c'est pas si important parce que c'est pas ce qui est décisif pour établir votre rôle lors de cette soirée-là.
Pascal Aigré, Salah Abdeslam est ensuite interrogé par les avocats des parties civiles. Comment ça se passe ?
Ce jeudi soir-là, les parties civiles ont vraiment tellement de questions à poser que c'est un florilège de questions qui partent un petit peu dans tous les sens, notamment sur la question de la cible de ce bar du 18e dont tout le monde aimerait connaître la localisation. Mais Salah Abdeslam n'est plus capable de le localiser. Il y a d'autres questions qui expriment du scepticisme face à sa version, à sa vérité, et notamment, mais pourquoi vous auriez eu une cible à frapper tout seul alors que tous les autres commandos, Bataclan, Terrasse ou Stade de France, ils étaient plusieurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il répond pas vraiment. Et il va être vraiment assez maladroit à l'égard des victimes, puisqu'à un moment, il se permet de porter un regard sur la façon dont cette épreuve des attentats les aurait grandi. Et il a cette formule extrêmement maladroite qui qualifie les qualités qu'elles auraient trouvées comme des qualités qu'on n'achète pas au supermarché.
Son audition s'achève le lendemain, le vendredi 15 avril. Comment il apparaît au cours de cet ultime interrogatoire ?
C'est vraiment un Salah Abdeslam qu'on n'a jamais vu aussi calme, posé, appliqué à répondre aux questions. On est vraiment loin de l'image qu'il a pu donner à d'autres moments du procès, d'insolence, de provocation ou bien sûr de silence.
L'interrogatoire se termine par les questions de la défense. Que dit Salah Abdeslam face à ses deux avocats ?
Le premier, Maître Martin Vett, veut essayer de conforter sa version. On sent que Salah Abdeslam en a un petit peu assez. Alors il lui dit on va pas tout refaire. Et du coup, c'est l'autre qui enchaîne, Maître Olivia Ronen. À un moment donné, elle va lui demander si finalement il regrette. Il redit « Non, je ne regrette pas d'avoir renoncé. Je ne regrette pas pour ces personnes, pour moi et pour ma famille. » Et en parlant de sa mère et de son frère, il se met à pleurer. On voit donc Salah Abdeslam, à ce moment-là, essuyer ses larmes sur ses joues, très ému, comme on ne l'a jamais vu.
Il termine en disant quelques mots pour les victimes.
Il dit « Cette histoire du 13 novembre s'est écrite avec le sang des victimes. C'est leur histoire et moi j'en fais partie. » Ils sont liés à moi et je suis liée à eux. Et après, il leur demande pardon, il leur présente ses excuses et ses condoléances. À ce moment-là, dans la salle, il y a un silence.
Timothée Boutry, les interrogatoires des accusés sur les faits viennent de s'achever. Cette séquence devait notamment faire toute la lumière sur l'organisation des attentats du 13 novembre, surtout les projets du commando terroriste. Ce procès peut-il encore permettre de connaître toute la vérité ?
Non, je crois qu'il faut être clair, il y a des choses qu'on ne saura jamais. On a parlé de Schiphol, aéroport d'Amsterdam, et sachant que les deux accusés qui se sont rendus, Sofiane Ayari et Osama Krayem, gardent le silence. Donc bon, bah là, on peut que se poser des questions. Après, il y a quand même des éléments très solides au dossier. On a l'architecture générale en fait, de ces attentats. On sait par qui ils ont été préparés, comment ils ont été organisés, on sait comment ils ont été perpétrés, évidemment. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas déroulées comme prévu, mais on ne sait pas exactement quoi. Et je pense qu'il faut qu'on accepte de faire le deuil de l'absolue vérité. Voilà, on sait beaucoup de choses. Cette séquence d'interrogatoire, elle a quand même été riche. Elle a permis d'avoir des éléments, mais elle restera aussi frustrante parce que trop de personnes ont gardé le silence.
Merci Timothée Boutry et merci Pascal Aigret. Je rappelle que tous vos comptes rendus de cette audience historique sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Ambre Rosala et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.